Le journal est présenté par Thomas Larabi.
Bonjour à tous. Les Tunisiens votent depuis une heure pour le second tour de la présidentielle. 7 millions d'électeurs doivent trancher entre deux hommes, deux outsiders au départ. Nabil Karoui, mania des médias, poursuivi pour fraude fiscale, et Kaïs Sayed, professeur de droit constitutionnel et néophyte en politique. Mais pour l'un comme pour l'autre, la Tunisie sera-t-elle gouvernable avec un parlement sans majorité franche? La formation du prochain gouvernement qui sera lancé après l'élection d'aujourd'hui ressemble à un immense casse-tête. Une correspondance de Christian Cheneau.
Avant même le résultat de la présidentielle, la Tunisie est entrée dans une zone de turbulence politique, car le Parlement, qui vient de sortir des urnes, n'a pas permis de désigner un vainqueur incontestable. Le parti islamiste Ennahda est certes la première force politique du pays, mais il devra s'allier avec d'autres mouvements. Sur l'échiquier politique, le futur président aura un rôle crucial, assure Tamer Mekki, rédacteur en chef du site d'information Nawat.
L'opposition sera de toutes les manières conséquente et importante dans la nouvelle Assemblée, mais il y a cette grande difficulté à constituer cette majorité, et par conséquent, évidemment, il y a un risque d'instabilité politique, quoique nous, Tunisiens, nous avons vécu et observé la chose durant ces 9 dernières années. Chaque fois qu'on va se dire on sera dans la stabilité, on découvre une capacité des institutions à gérer les choses, et une maturité de la société à cohabiter normalement, tout à fait normalement, avec ces situations d'instabilité gouvernementale ou parlementaire.
Les consultations pour former une nouvelle équipe gouvernementale pourraient durer des semaines, voire des mois, et en cas d'échec, les Tunisiens devraient alors retourner aux urnes.
Une correspondance de Christian Cheneau. La France suspend ses exportations d'armes vers la Turquie, annonce du Quai d'Orsay hier, qui condamne l'offensive turque sur les forces kurdes au nord-est de la Syrie. Une offensive qui dure depuis 4 jours et a fait plus de 100 000 déplacés. Mais malgré les condamnations de nombreux pays, les combats sur le terrain continuent. Ils se sont notamment concentrés dans la ville de Ras al-Ain, une ville coupée en deux par la frontière et désertée par ses habitants. Notre envoyé spécial Mathieu Mondoloni s'est rendu dans la partie turque.
De loin, on voit des colonnes de fumée noire naître et mourir en périphérie de la ville. Quand on se rapproche, c'est le bruit des balles tirées qui claquent dans les rues désertes. On est à 50 mètres seulement de la frontière, matérialisée ici par une simple voie de chemin de fer et quelques barbelés qui séparent les deux parties de cette ville. Les combats sont rapprochés. Pas question de laisser les journalistes venir plus près, même côté turc. Des hommes en civil, pistolets à la ceinture, fusils mitrailleurs en bandoulière, nous entourent. Ils se présentent comme des forces antiterroristes turques. D'après eux, nous n'aurions pas le droit d'être là. Malgré nos cartes de presse, c'est interdit. Nous n'avons pas les bonnes autorisations, disent-ils. Impossible de discuter. Ils nous escortent aux portes de la ville, malgré nos protestations. En partant, on entend tomber de nouvelles bombes. Les tirs d'artillerie succèdent aux frappes aériennes. Le siège de Ras al-Ain n'est pas terminé.
Mathieu Mondoloni avec les moyens techniques de Marc Garvenès. À Nantes, des jeunes des quatre coins de l'Europe rendent hommage à Steve Laia Canisso, ce jeune homme mort lors d'une intervention policière en marge de la fête de la musique en juin dernier. Depuis vendredi soir, ils sont des milliers installés sur le terrain d'aéromodélisme de Sainte-Luce-sur-Loire dans la banlieue nantaise. Reportage de Fabrice Hawkins.
Une centaine de sonos, 2000 voitures de tuffers comme ils s'appellent, tout ça sur un espace grand comme 2 terrains de football. Les jeunes viennent de toute l'Europe pour rendre hommage à Steve. Il y a un grand drapeau sur la caravane de Francesca.
Italie.
Comme ses 3 copines, Francesca vient de Florence. Elle est touchée par l'histoire du jeune Nantais.
J'ai vu l'histoire de Steve sur Internet. Steve, c'était un jeune garçon comme toi ou moi. C'est pour ça qu'on fait cette grosse fête. Et ça ne concerne pas seulement les Italiens, les Français ou les Allemands, ça touche toute l'Europe.
Et même à 1400 km de chez elle, les jeunes Italiennes ont des connaissances, comme Eva, une Nantaise de 22 ans.
Eva, Anna ! Ça va bien ?
Ça va et toi ?
Tout va bien.
Vous les connaissez ?
Un petit peu, d'une teuf avant, dans le Rhône-Alpes, au col de Carry.
Comment vous vous êtes retrouvés ici ?
On s'est envoyé un message et là, par pur hasard, on s'est croisés.
C'est la connexion de tous les teufeurs de France ?
Europe.
Comment vous l'expliquez? Pourquoi ils sont tous réunis aujourd'hui?
Pour rendre hommage à Steve, tout simplement. C'est un lien en fait qu'on a entre nous, on a un petit peuple et ça s'arrêtera pas, c'est pas prêt de se finir.
Pour Eva comme pour d'autres, faire la fête, peu importe les interdictions, c'est le meilleur moyen de rendre hommage à Steve.
Reportage de Fabrice Hawkins de France Bleu Normandie. Du côté de la météo, la France coupée en deux cet après-midi avec de la pluie sur la partie ouest de l'île jusqu'à Bordeaux et même quelques éclairs dans le centre Val-de-Loire. Côté température, comptez 15 à Brest, 17 à Rouen, 24 à Strasbourg et Limoges et 28 à Pau.